Vous êtes sur Radio Liberté 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, et nous repassons en direct. C'était Folk Allier de ce mémorable dimanche 14 juin 2026, mémorable parce que c'est le jour, l'après-midi, le soir, où l'équipe de Folk Allier vous invite à son bal folk, à Fest Days, à la mission bretonne. Ça commence aujourd'hui, cet après-midi, toute l'après-midi, de 15h à 20h. Il y aura des concerts de Trois Fois Rien, le duo Rivacel, le duo Alain et Thierry, le duo Camille et Maywen Iman. Il y aura Yves Guillemot et il y aura Tô ou Trad. Voilà, c'est à la mission bretonne, 22 rue de Lambre, dans le 14e à Paris. L'entrée est de 15 euros et de 10 euros pour les auditeurs de Radio Libertaire, les adhérents bon, c'est une affaire bretonne, la mission bretonne, mais c'est Folk Allier, c'est notre très chère équipe de cette émission qui est une énorme, incroyable institution dont l'univers des musiques traditionnelles, et c'est sur Radio Libertaire 89.4. Voilà, alors aujourd'hui à la mission bretonne, 22 rue de Lambre, toute l'après-midi jusqu'à 20h, le bal folk en soutien à l'émission Folk Allier de Radio Libertaire et à la librairie du Monde Libertaire, cette librairie que nous appelons Publico, le mercredi 24 juin à 19h, une rencontre, un débat avec Amine Messal pour son ouvrage « Erreur sur la marchandise, critique libérale du libéralisme ». Je ne sais pas ce que c'est, je peux vous dire le petit texte qu'il annonce, sans nier les contradictions de l'héritage libéral à... Amine Messal revient aux racines de celui-ci et révèle l'arnaque des adulateurs contemporains d'une liberté dévoyée, devenue le moyen d'imposer la loi du plus riche et du plus fort. Une perspective en phase avec les idéologies les plus réactionnaires. Donc, il va nous critiquer ça. Évidemment, il ne va pas en faire la promotion, il va le critiquer. Mercredi 24 juin à 19h, donc rencontre-débat avec Amine Messal pour son ouvrage « Erreur sur la marchandise, critique libérale du libéralisme » à la librairie Publico au 145 de la rue Amelot, dans le 11e arrondissement de Paris, au métro République Fille du Calvaire, ou au Bacamp. Et nous, en direct sur Radio Liberté, dans le studio Louise Michel, on va vous proposer La Tempête sur les planches. Ce sera une tempête poétique. We'll be right back.
Bonsoir, mes chers amis. Je devine que vous êtes tous aussi nombreux à vos postes, de TSS, pendant que la dernière fois. Il me semble vous reconnaître. Quel auditoire sympathique et charmant.
So you can call on the jury, the five finger of death. Me, I am fish.
Voilà, c'est Thomas d'Hambourg avec cette tempête consacrée à la poésie, à une rencontre entre des poètes, des comédiens, des acteurs. Bon, qu'est-ce qu'ils sont, on verra. Et des chorégraphes, donc entre texte et mouvement, texte et corps, etc. Ce sera notre sujet principal aujourd'hui. Et la poésie, elle est partout, elle est aussi à la Jamaïque, écoutez. Avant de commencer à vous présenter les personnes que j'ai rencontrées et qu'on va recevoir ici dans le studio Louise Michel de Radio Libertaire, on va parler d'un événement d'un type nouveau, différent, dans un lieu à Montreuil qui s'appelle la Guillotine. Mais avant tout ça, oui, j'ai quelques nouvelles là qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas réjouissantes. Moi, je mettrai ça sous le générique. Mais c'est la droite et l'extrême droite qui passent à l'offensive culturelle, ou disons anti-culturelle. Alors, d'une part, à Castres, c'est près de Toulouse. Et la municipalité, elle appartient au parti nationaliste, raciste, etc. Vous savez de quoi je parle. Alors, elle a fait annuler une pièce de théâtre. Cette pièce de théâtre s'appelle Passeport. Elle est de Alexis Michalik. Et elle raconte le parcours d'exilés, de migrants. Ça se passe dans le jungle, entre guillemets, de Calais. C'est une pièce qui tourne depuis quelques années. Et voilà, il y a eu les élections. Avec ces élections, on portait au pouvoir à Castres ce parti raciste et xénophobe. Et voilà, il y a cette pièce donc de théâtre qui était programmée. Mais évidemment, ça ne plaît pas à la municipalité, à la nouvelle municipalité. Donc le nouveau maire de ce parti estime que l'argent public doit être dépensé correctement. Ça, c'est des citations. Et dit j'ai appris cette semaine. Il a regardé qu'est-ce qu'il y a comme spectacle programmé au théâtre de Castres. Bon voilà, et il a dit alors celui-là, ce spectacle-là, non, j'en veux pas. Bon, donc il annule. Alors, est-ce qu'un maire peut annuler un spectacle qui est programmé dans un théâtre ? C'est assez étrange, n'est-ce pas ? Et l'artiste, le metteur en scène, il dit que c'est une décision qui est intervenue à la dernière minute à la demande des nouveaux élus de la municipalité. Et ce maire, il dit « j'ai le droit de le faire, hein. J'ai été élu et maintenant je fais ce que je veux ». Et alors, c'est une pièce qui raconte donc des parcours d'exil, d'identité, d'intégration et de transmission. Et c'est un spectacle qui est joué depuis plusieurs années, partout en France, devant des publics de toute sensibilité. Et le metteur en scène, il dit, ben, chacun est libre de l'aimer ou de ne pas l'aimer, mais chacun devrait aussi être libre de le voir. Bon, alors... Le maire, il dit, oui, c'était les choix de l'ancienne, de l'ex-majorité, là, et moi j'avais la totale liberté de revenir dessus, dit le maire. Et il prétend que rien n'avait été signé, et donc il n'y a pas d'annulation, il n'y a pas de déprogrammation, c'est juste que ça ne va pas venir à Castres. Ah. Alors, moi j'ai vérifié, je parle en tant que Thomas de Hambourg, hein, tout à l'heure j'ai vérifié sur internet, on peut trouver la brochure de Castres, qu'est-ce qu'il y a comme spectacle qui sont programmés, et effectivement ça a été enlevé. J'ai découvert par ailleurs que dans cette ville, il n'y a pas de théâtre, enfin il n'y a pas de direction de théâtre, c'est la mairie qui propose une saison culturelle. Et donc, il y a toutes sortes de spectacles. Il y en a qu'on pourrait aimer, il y en a dont on se fiche complètement. Mais c'est bien, pourquoi pas. Mais alors, le maire voit à ce spectacle-là, je vais le censurer. Hein, on peut pas montrer ça. Il parle d'idéologie immigrationniste. Qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire que considérer des migrants comme des êtres humains, ce serait une idéologie, selon leurs termes. Alors moi, je dirais refuser les droits les plus élémentaires à des êtres humains, même s'ils sont migrants, ben ça, c'est une idéologie. Voilà. Alors, il y a qui là ? Il y a... Les d'autres figures de ce parti, ils disent le maire de Castres n'a pas annulé cette pièce, il ne l'a pas retenue, c'est tout. Alors, je ne vois pas la différence, moi. Et, d'autres personnes de ce parti posent des questions. Par exemple, celui, je ne vais pas dire son nom, mais on nous dit qu'il est le conseiller spécial de Jordan Bardella. Il demande... qui imagine la gauche financer une représentation théâtrale qui promeut les bienfaits du nucléaire ? Ah ! Non ! Cette pièce, je veux bien voir quelqu'un écrire une telle pièce, à quoi ça va ressembler ? Quelle gueule ça peut avoir ? Une pièce de théâtre qui promeut les bienfaits du nucléaire ? Ou bien l'autre, oui, c'est un autre là de ce parti qui parle donc d'idéologie immigrationniste. Non. Alors, la question c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Et il y a évidemment tous les autres spectacles qui sont retenus, qui vont avoir lieu, mais les artistes, ils vont faire quoi ? Est-ce qu'ils vont boycotter maintenant cette salle, cette municipalité ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Et on a une large coalition contre cette décision. Ça, c'est très intéressant aussi. Vous avez un monsieur là qui s'appelle Samuel Sené, que je ne connais pas du tout. Il est metteur en scène, il a remporté 4 trophées de la comédie musicale, il est le producteur musical de Disneyland de Paris. Ouais, et lui, il est hors de lui. Il dit ça va pas du tout. Et apparemment, il a vu le spectacle et il trouve le spectacle très bien. Et il dit que ce que le Front National présente comme un simple choix de programmation municipale est en réalité une mise sous tutelle idéologique de la culture et de la création artistique en France. Donc, on a une très large coalition qui va jusqu'à Disneyland contre le maire de Castres. Bon. Et après, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé à Vanves ? Est-ce que vous avez entendu cette histoire à Vanves ? Là, on a un maire, il y avait des élections partout, hein, à Vanves aussi, et à Vanves, le maire a été réélu, il s'appelle Bernard Gauduchot, et il appartient à un parti qui s'appelle UDI, c'est assez proche de Macron, paraît-il, et lui, il a tout simplement... annoncé une année blanche pour le théâtre de Vanves. Autrement dit, il a annulé l'ensemble de la saison 2026-2027, à l'exception des spectacles jeunes publics et des séances de cinéma, parce que ce théâtre est aussi un cinéma. Alors, pourtant, les gens avaient été sages et n'ont rien à reprocher à ses électeurs, ses électrices, parce qu'il a été réélu. Maire, il est là depuis longtemps, il a vu les saisons se dérouler les unes après les autres. Ces saisons, ce festival, festival très intéressant sur la danse, qui s'appelle Ardente, qui existe depuis une vingtaine d'années ou plus. Et cette programmation-là au théâtre de Vanves fait que Vanves compte quelque part en France. Qu'est-ce qu'il y aurait de Vanves s'il n'y avait pas ce théâtre ou si ce théâtre ne montrerait plus que des petits spectacles pour les enfants, etc. Bon. Alors, ce maire, il veut quoi ? Il veut peut-être des divertissements, il veut peut-être nous dire « Réfléchissez pas à ce monde, mais consommez quelque chose, consommez des trucs là qu'on vous programme. » Et ce qui est drôle aussi, c'est qu'à Castres, là, ce maire, il dit « Mais on pourrait programmer de la danse. Pourquoi un spectacle immigrationniste, on pourrait programmer de la danse ?» Donc, mais quelle danse ? Peut-être de la danse folklorique ? Non, mais on a ici la Radio Libertaire, on a une émission de musique traditionnelle et de danse traditionnelle. Et la tradition n'est pas de gauche, elle n'est pas de droite. La danse contemporaine, elle peut être de gauche, mais elle est essentielle dans le paysage culturel. Donc, qu'est-ce qui va se passer à Castres? Est-ce que les autres compagnies, quelques compagnies vont décider de boycotter la salle, la saison programmée par ce maire? Est-ce qu'on ne devrait pas un peu discuter du fait que, apparemment, dans ce pays, il y a des municipalités, il y a des maires qui peuvent décider de ce qu'on voit dans les théâtres? C'est assez incroyable. Et à Vanves, bon, tout le monde dit « Ah, c'est bien, la saison est sauvée, on est sauvé. » Non, personne n'est sauvé, c'est juste un répit d'une saison. Le maire a bien compris apparemment qu'il vaut mieux réaliser son projet là dans une saison plus tard et sans faire de bruit, juste tranquillement, rien n'est sauvé pour le théâtre de Vanves ni pour le festival Ardentais. À Vanves, qui est un très très beau festival, très intéressant, où beaucoup de gens aujourd'hui très connus dans la danse ont fait leur début, pas seulement là, mais entre autres, c'est un festival, un théâtre de découvreurs importants pour les chorégraphes, pour l'art, pour la France, parce que ce sont des gens, après, des chorégraphes, des artistes qui vont faire rayonner la France en Europe et au-delà.
Iron Fist.
C'est Thomas Dombourg, Radio Libertaire 89.4 et La Voix sans Dieu, sans maître, sans publicité, de la Fédération Anarchiste et Tempête sur les planches. Et maintenant, je vais vous expliquer de quoi on va s'occuper aujourd'hui. C'est une performation, une performance. Ça se passe en mettant ensemble des auteurs, des poètes, acteurs, lecteurs et des chorégraphes, danseurs. Et ça se passe à Montreuil. Montreuil, apparemment, se porte un peu mieux que Vanves ou Castres. Donc, Montreuil, on peut y aller en métro, c'est pas mal. Et le lieu où ça se passe s'appelle la Guillotine, puisque c'est au métro Robespierre. C'est une salle expérimentale. Moi, j'ai réuni... le week-end dernier, quelques personnes autour de moi, c'était Philippe Armette Braski qui, lui, orchestre joyeusement ce joyeux bordel qu'on va découvrir. Et avec lui, Paul Alliot et Félix Alliot-Chaumienne. Donc les Alliot sont une famille qui compte dans le paysage culturel français, dans le cinéma, dans le théâtre. Et ils vont participer à cette soirée. Autant que Claude Merlin, aussi acteur, auteur, metteur en scène, que nous avons déjà reçu quand même plusieurs fois ici à l'antenne. Il y aura donc Anne-Sophie Lancelin qui est avec nous ici dans le studio, qui va apparemment lire des textes, elle va nous en dire un peu plus, et Mathilde Nègre pour lire des textes, et donc pour mettre tout ça en mouvement. En danse, on a Christine Gérard, Andrea Zitter, Anne-Sophie Lancelin et Jean-Christophe Bouclé. Ça va se passer le 26 juin. Une seule soirée expérimentale. Mais c'est vraiment passionnant et on va vous parler de ça. Et moi, j'ai réuni donc le week-end dernier dans le sud de la France, c'était à Uzès, Philippe Armette Braski et la famille Alliot, Paul et son fils Félix, qui nous expliquent ce qui va se passer, qui nous lisent des textes, et on va écouter ça en deux parties, avant d'aborder cette rencontre du point de vue de la danse, avec nos invités qui sont en direct dans le studio Louise Michel de Radio Libertaire. Nous sommes dans un studio de radio bien particulier, en plein, mais au milieu de la place, aux Herbes, à Uzès, curieusement. Mais c'est que Philippe Ahmed Braski qui nous propose une soirée entre danse et poésie à la Guillotine, à Montreuil. Il est à Uzès et moi aussi. Et Philippe nous a amené encore deux personnalités qui vont participer à cette soirée avec leur texte. Et de toute façon, il n'y a pas que cette soirée, il y a plein de choses qui se passent. Et Philippe, est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il est question? Comment est venue cette idée de faire ce lien entre l'écriture, la poésie et la danse? Comment ça se déroule, etc.
Alors, attends, il y a beaucoup de questions. Comment ça m'est venu? Alors, je m'attendais à ce que tu me poses la question, c'est quoi ce projet? Donc tu m'as pas posé exactement cette
question. C'est à peu près la même chose.
Mais donc je m'étais préparé à te dire ça n'est pas un projet. Parce que, c'est important, parce que de même que le projet entre guillemets précédent qui m'a beaucoup occupé, qui est très proche de ce qu'on fait là, qui s'appelait Tumulus, c'est un projet qui s'est déclenché parce qu'en me baladant en Europe centrale et orientale et dans les Balkans, j'ai ressenti des émotions puissantes qui m'ont étonné. Et je dis souvent, pour expliquer ça, parce que j'ai l'air de parler d'autre chose, mais c'est un rapport avec ce qu'on fait. C'était un petit peu comme si je m'étais baladé dans un bois et puis tout d'un coup dans un buisson je trouve une paire de pantalons, je me touche les fesses et je me dis merde, je suis à poil. Donc je trouvais une partie de moi-même et j'ai proposé à des artistes de venir avec moi là-bas pour trouver une partie d'eux-mêmes ailleurs, chez l'autre. Et donc j'ai été saisi par ces émotions et c'est développé après ce projet-là. C'est pareil, moi je suis pas quelqu'un qui délibère les choses, c'est pas un projet culturel avec des objectifs, et tu vois, c'est pour ça que je n'utilise pas tellement le mot projet, parce que je n'ai pas décidé de faire ça. Il se trouve que ces deux personnes qui sont avec nous, que j'aime beaucoup et qui m'ont beaucoup apporté, Paul Alliot, là, qui est comédien, entre autres, mais pas seulement, acteur, et Félix, je ne dirais pas qu'il est poète, parce que je ne suis pas sûr qu'il serait d'accord qu'on dise ça, mais qui a une pensée, une parole très puissante. Oui, alors Paul, qui est le père de Félix, un jour crie par la fenêtre « Venez voir, il y a de la lumière dehors ». Donc j'ouvre la fenêtre, je vois un phare qui clignote au large, je me dis « Merde, c'est beau ». Et le phare, alors là j'ai l'air de les flagorner, donc, mais je fais pas de la pub pour ce qu'on fait, je les flagorne pas, je dis vraiment ce que je pense. Et donc ça a été de rencontrer Félix et ce qu'il est, volontairement ce qu'il est, pas ce qu'il fait, et Paul aussi, qui a des vertus formidables, qui est un type insupportable mais merveilleux. Grâce à eux, j'ai été pris dans ce truc-là et je me suis dit, c'est pas possible, on va essayer, avec mes tout petits bras, je vais essayer de faire en sorte que ce que dit Félix, dit parfois par son père qui a écrit mais qui pour l'instant n'a pas mis de texte dans la marmite, je me suis dit, on va essayer de faire entendre ça. Donc je suis parti sur l'idée de manière très très petite et artisanale de diffuser un mail par semaine avec des liens vers des poèmes. La première fois qu'on a fait ça, il y avait 6 poèmes, dont 3 fois le même, Parce que, oui, pardon. Et ça a duré 10 minutes, et puis ça a pris de l'ampleur. Maintenant, c'est une fois par mois, avec une vingtaine de poèmes. Alors, c'est aussi pas un projet, parce que j'ai pas d'objectif. Donc, il y a cette genèse, comme ça, autonome. Et moi, je dis souvent que plus que de m'occuper de projets, je suis occupé par les projets. Et une autre raison pour laquelle je dirais que c'est pas un projet, c'est que ça peut s'arrêter demain. Si je m'aperçois que ça s'essouffle, que ça devient systématique, que ça devient un projet, eh ben, on peut décider qu'on arrête, qu'on va faire autre chose. Voilà.
On pourrait ajouter que Radio Libertaire n'est pas une radio, mais un projet.
Donc voilà, j'ai même, si tu veux, je sais pas si, puisque tu parlais de lire des textes, est-ce que tu veux que je te lise un texte qui fait une petite pagette?
Allez, c'est un texte qui nous parle de quoi,
un petit peu à ça. Alors, j'ai pas répondu.
Alors, ouais.
Pardon. Je n'ai pas répondu à un bout de ta question. C'est pourquoi associer la danse avec la poésie. C'est pareil, comme tu sais, je vis avec une merveilleuse danseuse. J'ai passé pas mal de ma vie avec la danse. Donc j'ai des. Oui, alors quand j'ai commencé à voir le phare par la fenêtre, j'ai évidemment convié des potes à moi qui sont proches de la guillotine, Christophe Lamiaud, Philippe Burin-Desrosiers, Claude Merlin, à venir avec leurs textes ou avec leur volonté de dire des choses. Et c'est pareil, les danseurs sont autour de moi. Et alors, c'est très vaniteux, par contre, ce que je vais dire, une fois, j'étais dans un spectacle et je pensais à un des textes que j'ai écrit qui s'appelle Noé. C'est ça, c'est prétentieux et égocentrique. Et je me suis dit, merde, j'aimerais bien qu'un chorégraphe fasse un truc là-dessus. Et j'ai pensé à quatre chorégraphes, les quatre chorégraphes qui seront là le 26, parce qu'on va parler du 26 juin, mais pas seulement. C'est Andréa Citer, ma compagne, c'est Anne-Sophie Lancelin, qui est une très très belle danseuse, c'est Christine Gérard, qui est également une danseuse remarquable, et Jean-Christophe Boclet. Donc voilà, naturellement, la danse, mais la musique, tu vois, se sont mêlés à ce truc. Voilà. Si tu veux, je te lis ça.
Alors, avant de faire ça, rappelle-nous un peu, on a parlé du lieu, la guillotine, la guillotine. Rappelle-nous un peu ce lieu, d'où il vient, où il est, son esprit.
Alors, oui, je veux bien, mais avec réserve, parce que c'est le lieu de Philippe Burin-Desrosiers, qui est un homme merveilleux, qui est le propriétaire, le démiurge, le créateur de cet endroit, qui au départ était... Il a acheté ça, c'est drôle, Philippe, parce qu'il a deux, outre ses enfants, dans la vie, il a deux passions, la poésie et Grotowski. Et il voulait, depuis très longtemps, acheter un studio de 100 mètres carrés pour faire des entraînements de voix grotowskiens. Et il achète... mais Philippe, c'est quelqu'un qui a l'air de serpenter sans savoir où il va. Et en fait, il va très lentement, complètement à droite, complètement à gauche, mais à l'inverse de beaucoup qui foncent, lui, il finit par arriver là où il voulait. Et donc, il achète une ancienne friche industrielle à là-bas, rue Robespierre. Ça s'appelle la guillotine pour ça, rue Robespierre. Et il s'y passe des tas de trucs, dans une espèce de dépotoir de tas de tôles, le fond de la parcelle, où il y a des trucs formidables de cinéma, de buteau, etc. Ça se développe. Et puis un jour, il achète un bâtiment à côté qui est merveilleux, qui est une très grande vitrine de 250 mètres carrés, des pianos Klein, le seul facteur de piano français. Et on y développe des choses. Il y a les bruits de mobilette à côté. Il y a les Maliens qui se déversent du centre d'hébergement malien, qui font comme une barbe d'abeilles devant une ruche, qui sont là, qui parlent, qui rentrent dans la boutique. Donc il y a un mélange entre des hexamètres du 14e siècle, du jazz, du piano. Et il y a beaucoup de piano dans cet endroit. J'essaie d'accélérer. Maintenant, il y a un restaurant chic et il y a plein de studios que Philippe a développés. Et il s'y passe plein de trucs, mais c'est pas à moi d'en parler là, mais il y a du jazz, il y a de la poésie, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éditeurs qui sont là, enfin, il y a tout un cosmos qui vient là, parce que c'est un endroit très agréable. Tu m'as pas posé la question, mais je te le dis quand même, ce qu'on fait, ben, je disais c'est pas un projet, mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il y a dans les jours qui viennent, il y a trois temps, deux choses qui sont pas exactement, qui dépendent pas de mon initiative, qui sont une lecture dont Paul va parler d'un texte très important pour lui de Ginsberg et Hall, qu'il va lire en commun avec un poète que j'ai déjà cité, qui est Claude Merlin. Ça aura lieu le dimanche. Pardon, j'ai une bêtise. On commence par Félix. Excuse-moi, Félix. Le 19 juin à 17h, c'est ça, hein, Félix ? 20h, pardon. 20h, excuse-moi. Félix va lire des textes à lui. Donc ça va être déménagé. Je sais pas bien de le dire devant lui, mais c'est quelqu'un qui est assez sidérant, et ce qu'il écrit est tout autant. Le surlendemain, son père lira un texte qui lui importe énormément, il en parlera mieux que moi, donc le dimanche 21 à 17h, hein, c'est bien ça. Et puis, une petite semaine plus tard, le vendredi 26 juin à 20h30, seront rassemblés les poètes que j'ai déjà mentionnés, Félix et Paul qui sont ici, Philippe Burin-Desrosiers, qui ne donne pas de ses textes parce qu'il, pour l'instant, il ne veut pas les livrer, mais qui lit, Claude Merlin, Christophe Lamuenos, qui lit depuis des années à la guillotine, moi-même qui, sous divers pseudos, aussi serait présent là-dedans, et les quatre danseurs que j'ai mentionnés. Voilà. Puis il y a d'autres projets, mais en gros, ce qu'il y a, et puis par ailleurs, pardon, j'en finis. Donc tous les mois, on diffuse ces poèmes, et il y a également des textes de danseurs, comme par exemple Anne-Sophie Danselin. Voilà. Je peux citer, il y aura aussi une personne qui s'appelle Mathilde Denègre, qui sera, dont un texte sera lu le 26, que j'ai pas encore cité.
Donc je te pose en même temps la question à laquelle tu as déjà répondu.
Ouais.
Voilà. Et maintenant, tu voulais nous lire. Quelque chose.
Alors, bien sûr, on oublie toujours des gens, donc c'est pas bien. Il y a Benjamin Collin, il y a Frédéric Soumagne, il y a Sophie Loiseau, et si j'en oublie d'autres, qu'ils me pardonnent. Je te lis ça vite fait, c'est pour répondre à la question que t'as pas posée, c'est quoi un projet? Pourquoi tu écris de la poésie? Si il fallait tout d'un coup que j'écrive, à cause du temps, du silence, du vrai, du temps et de tous ces trucs-là, dans la vie, la tienne, la mienne et celle de tous derrière les immeubles fenêtres. C'est comme ça. J'ai garé ma bagnole, j'ai pris mon téléphone et j'ai scribouillé ce qu'il voulait se dire, en faisant vite. C'est comme ça, un trait. J'ai acheté une pizza, j'ai dit « Ah, celle-là, c'est pas bon pour la ligne ». Le client qui était là, j'aurais dû parler davantage avec lui, je suis con, avec sa gueule de prolo, il semblait en fait être aussi ou être en fait un prolo, un poète, un prophète, un gars aimable, très fin et amical avec son pote, le pizzaiolo, mais possiblement qui se tait. Raté le coche, mon pote. Parfois, je suis très con. On a parlé du siège des Ottomans devant Vienne avec le pizzaiolo, un berbère du Maroc. Mais le prophète, il était dans sa pizza, enfermé, il voulait pas parler. Jean Genet, tous les deux, il connaissait pas. Et le cimetière, et la mer, le dépotoir. Jean Genet, il connaissait pas. Le jeune merveilleux voleur qui m'a piqué mon stylo. On crevait vraiment de chaud dans cette ville, à l'arrache, au sud de Tanger. Les rats, la mer, jouer au foot avec les jeunes qui en revenaient pas. Les sœurs, les mamans qui se baignaient tout habillées. Là, la route défoncée, le vendeur d'eau, de Fanta, de cacahuète. Quand j'ai parlé de l'amant de Genet dans la prison, tout près du cimetière, silence un peu, j'avais donc parlé des PD. La tombe de Genet, arrivée anonyme du cadavre dans une toile de jute, la seule tombe avec des cailloux blancs et orientée vers Rome. Ma pizza était prête, le poète, il a dit « Il faut briser la ligne pour la redresser, monsieur ». Il y a des choses qui s'imposent comme ça dans la vie, surtout des mots. Le matin, par exemple, ça commence à se mettre en branle comme des cubes ou des petits soldats ou des gens dans ma tête. Mais ce sont des mots qui se mettent en chaîne, un peu comme une espèce de danse discrète mais sérieuse, des fleurs, ou je sais pas, plutôt comme un paysage. Faut le peindre, c'est tout, faut se lever. Comme le soleil, ne pas louper ce nuage ou voir la lune, une sorte d'envie de pisser, mais de pisser un truc qui cousine la vie, donc urgence, non drame, mais verticale. Urgence paisible mais sans appel et sans tergiverser, c'est tout.
The water and mortar, and dig this musical sculpture coming from King Toby's headquarter.
Oui, c'était Philippe Ahmed Braski sur la place publique, la place aux herbes à Uzès. Et j'avais bien parlé, j'avais bien annoncé père et fils Alliot, Paul et Félix. Oui, ils étaient là. Et on va les entendre.
Scrub your bowl, scrub your bowl. Grab your towel, scrub your bowl. Say, you got to be clean. To be on the scene. Grab your rug, grab your soap, scrub your hand, scrub your face, scrub your side, scrub your back, scrub your front, wash your foot, wash your face. Bathroom scan, say. Say,
Grab your rug, scrub your butt, scrub your front, wash your face. Slant dice gun. Scrub your face, scrub your hand. Wash your face, scrub your butt. Wash your butt, wash your front. Wash your hand, I wash your hand. Bathroom scan, and they go.
Alors la poésie, c'est rare. Dans Tempête sur les plages, il y a du théâtre, il y a de la danse, performance, des choses comme ça, mais la poésie, je suis très content d'en parler avec deux écrivains aussi, deux poètes qui, dont on va entendre les poèmes, et Philippe. Aussi avec toi, Philippe Ahmed Braski. Est-ce que ce programme, cette soirée à la guillotine à Montreuil, a un nom, un titre, quelque chose ?
Pas vraiment, je l'ai appelé parce qu'il faut donner un titre, performation. Mais il y aura 11 textes courts, dansés, lus par diverses personnes. En général, quasiment tout le temps, pas lus par l'auteur. Quelques fois lu plusieurs fois et dansé par les quatre chorégraphes que j'ai mentionnés, Jean-Christophe Boclé, Christine Gérard, Anne-Sophie Nancelin et Andrea Sitter. Il y aura une pause, une soirée d'une heure et demie, et des textes courts qui font entre une minute et demie, et il y en a un long que j'ai mentionné, qui s'appelle Noé, qui fera 15 minutes. Sinon, le texte est court.
Je m'interroge, est-ce qu'on va entendre les textes lus par quelqu'un et puis la chorégraphe va danser, ou est-ce qu'elle va réciter ses textes en dansant? Genre, on va les découvrir. Laissons un peu de suspense.
Nous ne le savons
c'est
pas nous-mêmes.
C'est peut-être même pas encore décidé.
Absolument.
Mais voilà. Alors, Philippe, est-ce que tu veux nous présenter les deux à Lio, ou est-ce que vous voulez vous présenter vous-même?
Je pense qu'ils vont se présenter eux-mêmes.
Félix.
Moi, je m'appelle donc Félix Alliot et Alliot-Chaumienne. J'écris depuis très très longtemps, mais c'est très longtemps resté dans un cadre extrêmement intime, dans mon grenier presque. Mmh. Et un jour, mon père m'a parlé de Philippe Ahmed, qui est un vieil ami à lui, et de Burin des Rosiers, et de la guillotine. La guillotine, quand on s'intéresse à la poésie, quand on connaît un peu les bas-fonds de la poésie, cela fait tout de suite appel à une figure majeure de la poésie, qu'est Rimbaud. Il faut savoir que la guillotine est le nom d'un rad. Un rad, c'est-à-dire un bar. D'un bar de bas-fonds que fréquentait Rimbaud. Mmh. Où il allait volontairement pour se mêler et fréquenter la lie de la société. Vraiment ce qu'on appelait à l'époque les pouilleux, les rebuts. Et il allait là décuver ses soirées de beuverie. Dans le rapport qu'on peut avoir à la poésie et au langage, c'est quelque chose de très fort. Parce que le langage peut être autant une merveille qu'une débauche. En cela, ce terme de la guillotine et cette idée que mon père m'a évoquée de venir y lire m'a appelé. Donc au fur et à mesure du temps, j'ai fait lecture là-bas, grâce à Philippe que je remercie, grâce aux deux Philippe que je remercie, grâce à mon père aussi, jusqu'à finalement ce projet qui se met en place autour de textes et de danse. C'est quelque chose d'assez intriguant pour moi, parce que ce sont deux choses qui, je pense, se touchent, se frôlent de très près. Dans ce qu'elles ont du rapport presque préverbal, pourrait-on dire, à l'être humain. la danse et la poésie. Hein, je dis souvent que la langue est un câble trop fin pour les sens, c'est-à-dire la sensorialité, et la mesure dans laquelle le corps est capable ou non d'appréhender le sensoriel qui, donc, construit absolument toutes les représentations du monde que notre esprit fabrique et qui fait ce qu'on appelle la réalité. Cela, c'est aussi une chose que la danse appréhende tout autrement, mais que par une forme d'exercice, les danseurs, eux aussi, expriment. Alors, l'idée de mettre mes propres textes dans les bras et les pieds, dans les mains et les hanches de danseurs, m'a paru des plus naturelles. Simplement. Après, moi-même, ce que je pourrais dire de moi-même, je pense que je n'aurais pas plus envie d'en dire beaucoup plus que de vous inviter à m'écouter lorsque j'en lirai. Et surtout, de venir voir cet événement du 26 et les événements qui le précèdent.
Alors, je découvre que Félix Alliot est un poète non seulement quand il écrit, mais dès qu'il commence à dire quelque chose. Maintenant, tu vas nous dire quand même ce que tu as écrit.
Je peux vous lire un poème que j'ai écrit, en fait, il y a un certain temps. Il faut dire que j'entretiens au monde un rapport assez particulier. Je n'en ferai pas étalage. Ce poème s'intitule « Après le symbole ». Pour des raisons qui me sont très personnelles et qui n'importent pas. Je suis le point d'horreur, et sous mes doigts il fleurit. Car toute horreur, lorsqu'elle brûle assez, devient le gouffre joli où Dieu respire. Les mots que j'avais, ces oiseaux dociles, sont tombés morts ce matin dans la poussière. Avec le verbe sur leurs ailes. Et longtemps, très longtemps, j'ai écouté, piaillé. Voilà que je ne suis plus un être parlant, mais un muet qui tranche le réel. À ses plaies fourrent les astres. C'est là que le ciel se penche sur l'homme et sa démence. Car là où le symbole meurt, peut commencer le monde. Taxidermiste du verbe, voyez comment je suis né sans hurler. Et chantais avant le langage, mon œil bien ouvert sur le nu du vivant. Mangeant le vieux latin des saints et trouvant juste derrière les mots un chant et un ange. Il brûlait une figure à son feu de camp et, se taisant dans sa foi, semblait enfin tout comprendre de ce qui l'apaise. Je suis le point d'horreur où tout bascule, où tout jouit. Où tout crève, je suis le point d'horreur, nu comme l'aube, immense, solitaire. Je suis le point d'horreur dans l'instant de se taire.
Fini, alors merci, bravo. Est-ce que ça va être la première fois que quelqu'un va danser ? En rapport avec ce texte ?
Tout à fait. Ce texte-ci, je ne sais pas s'il sera danse-lu à ce moment-là. Mais en tout cas, d'autres le seront, dont certains textes de moi, comme le disait Philippe.
Dansu ou dansifié.
Oui. Autant de strates minérales qu'on veut y mettre. Et...
Dansurgé.
Oui. Et oui, Danser, c'est la première fois que mes textes seront posés sur de la danse. Après, j'ai moi une certaine expérience indirecte de cela, de par mes parents qui sont artistes et principalement ma mère qui a beaucoup collaboré dans sa vie avec des danseurs. Donc même si, oui, elle était elle-même danseuse, effectivement. Donc même si moi, personnellement, je n'ai pas d'expérience quelconque avec la danse, j'y ai une certaine proximité affective et artistique. Et je suis impatient de voir ce qu'il en sortira.
Oui, mais tu as l'air de chanter. Tu es en train de parler où on a l'impression que il y a un petit quelque chose dans ton artaud qui flotte dans les airs. Alors, Paul, qu'est-ce que ça fait quand le fils il parle comme ça? Oui, ou est-ce que tu veux te filmer toi-même pour le nom?
Ce que ça fait, ben ça me rend muet quelque part. Ça me dispense de parole. Il chante sa poésie tellement mieux que tout ce que je saurais dire. Je ne sais vraiment pas quoi raconter sur sa poésie, sinon ce qu'il a dit lui-même, il faut l'écouter. Il faut le vivre de l'intérieur. Et quand même, une chose, pourquoi tout à l'heure j'ai dit non, pas comédien, acteur? Parce que c'est une action. Je veux dire, le dire et même lire, c'est un engagement physique, c'est l'organisme qui lit. Et on parlait de Grotowski, et je tiens à dire un grand merci à Philippe, effectivement, aux deux Philippe. Vraiment, Philippe Ahmed, pour avoir tout de suite percuté sur la personne de Félix et les textes de Félix et les entendre du dedans, comme tu dis toi-même, qu'un poème, Félix, où tu dis « je veux pas qu'on m'explique, je ne veux pas d'explication, je veux qu'on entende de l'intérieur ». Et il s'agit aussi de dire « de l'intérieur », mais qu'est-ce que ça veut dire? Et là intervient une autre personne qui n'a pas été citée, c'est Georges Parente. Alors, il paraît que je prononce mal le portugais, qui n'aime pas, mais qui est pour moi un grand homme. Il ferait chanter un tabouret. Hein, et j'ai été en stage avec lui. C'est vraiment.
Qui est-il?
Georges Parente, et qui est l'héritier directrice, et qui est le transmetteur des techniques de Zygmunt Mollig, qui était l'associé de Grotowski au laboratoire de théâtre de Wroclaw, c'est ça, si je ne braille pas, laboratorium.
Et Jorg, qui agit beaucoup à la guillotine.
Et voilà, et qui est, et c'est pour ça qu'il parlait de Grotowski, parce que la suite de Grotowski est chez Georges Parente, qui travaille à la guillotine, qui donne des stages régulièrement à la guillotine et un peu partout sur la planète. En Allemagne, je crois, au Portugal. Et qui est vraiment. C'est extraordinaire de travailler avec lui. Et donc, acteur, pourquoi je tiens à acteur? Pour moi, comédien, ça évoque, c'est un peu spécifique à la France, le comédien, ça évoque celui qui va faire des animations dans les clubs de vacances. Non, je suis un agisseur, un acteur. Je serais situationniste, disons, vous voyez.
Poète, donc.
Si tu veux, je ne sais pas ce que
c'est. Mais c'est la même étymologie, je crois. Je ne vais pas faire le pédant. Je suis assez ignorant, mais dans mon ignorance crasse, je crois que le poème en grec, c'est l'action.
La poésie.
Poésie, c'est ce qui surgit. Faire agir.
Donc tu es un poète.
La poésie. Eh bien, d'accord, si tu veux. Oui, très bien, je veux bien. Tu peux me coller des étiquettes. Vous m'avez vu tout à l'heure. Voilà, ça, c'est moi. Ça, c'est mon théâtre. Ça, c'est... Je passe les trois quarts de mon temps dans la rue avec ça. À Marseille. Bon, voilà, avec un briquet, on est bien avec un briquet.
Voilà, il se balade avec un drôle d'instrument de musique. C'est Paul Alliot. Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4 et 92 sans publicité. Ça tempête sur les planches. Hein.
Bon,
Et après, je ne peux plus m'arrêter, j'ai des sabots de cheval à la main.
T'as cité Jorg, mais moi je me perçois, je vais citer quand même des gens qui ont été partie prenante, tu vas reprendre, qui ont été partie prenante de nos diffusions mensuelles, mais que j'ai oublié de. Parce qu'on oublie évidemment tout, plein de gens, et peut-être que j'ai encore oublié. Constantin Leu, Laurent Jarige, Thomas Lasbly, Zoé Mest, Branlotin La Désespérance, Sylvie Razizaï, Mac François, Margarita Kutchescu, traduite par Victoria Sikorski, Jean-Marc Luneau, Benjamin Collin et Laurent Grisel.
Voilà, il y a tout le monde. Ben voilà.
Voilà.
Alors, formidable.
Oui. Grand acteur dans l'histoire.
Et là, ce qui me passionne dans cette idée, c'est précisément de mettre en jeu physiquement la poésie. Moi, je rêve des choses. Alors, j'en ai pas parlé avec Andréa encore, mais on va en parler. Par exemple, moi, l'idée, on parle de Grotowski. Grotowski disait, il faut sentir la sueur des acteurs. J'ai dit, mais pourquoi le public serait immobile dans des chaises? Pourquoi les danseurs se baladeraient pas au milieu d'un public qui va s'asseoir par terre, où il peut, qui va se déplacer, qui va être déplacé par les mouvements des gens, comme j'avais vu Ronconi, Orlando Furioso, dans le chapiteau des Halles, et les pavillons Balta, en 1900, au siècle dernier.
1912.
Oui, par là. Non, 1820, bref. Il y a un demi-siècle, où le théâtre était autour, était partout, était à travers, on était le cul sur des chaises à bouffer du théâtre au biberon, comme ça, on était motivé, ému. Ému, ça veut dire mis en mouvement, une émotion.
Ému, ça veut dire mis en mouvement, voilà. Ça, c'est parole intéressante. Et vous êtes dans Tempête sur les planches, Radio Libertaire 89.4 avec Thomas Dambourg. Et on va reprendre là maintenant avec nos invités en direct.
Okay, let's take it from here.
Welcome all you weenie boppers. This is your musical papa. From a musical bank, I bring for a Kentucky skin. Say!
Alors, avec ce grand poète de la scène jamaïcaine, ce poète-chanteur, poète-acteur, Lee Perry, qui, bon, c'est une vieille histoire, Lee Perry. Et moi, je suis dans le studio de Radio Libertaire, c'est moi, Thomas Dambourg, et je suis avec Christine Gérard, avec Anne-Sophie Lancelin et Jean-Christophe Bouclet, qui vont aborder cette soirée à la guillotine à Montreuil en dansant. Voilà, et peut-être aussi en disant quelques textes, en lisant des textes, on ne sait pas. Et je voulais juste vous dire encore un mot de la part de donc Félix Alliot Chaumienne, qui m'a confié énormément de pages, juste un extrait. Il a dit ça, cette phrase-là, « La langue est un câble trop fin pour les sens », a-t-il dit. Et ça continue, il dit « Elle craque ». La langue, hein, elle craque, elle ment, elle réduit, elle détraque, elle trahit. Mais elle est aussi le seul appareil que j'ai trouvé pour ne pas être entièrement submergé par ce qui arrive. Il y a chez Artaud quelque chose de cette vérité-là. Le corps ne reste pas derrière la langue, bien poli, bien assis, bien silencieux. Le corps monte dans la phrase. Il la déforme, il la rend boiteuse, électrique, excessive, injuste, parfois. Le nerf n'est pas un thème, il est une grammaire. Ce n'est pas que j'écrive, entre guillemets, sur le corps. C'est que le corps écrit avant moi, contre moi, à travers moi, et que je dois ensuite reprendre sa dictée, la corriger, la salir encore, la rendre transmissible sans l'embaumer. Et il dit aussi, je suis poète, je ne suis pas du dérèglement volontaire, je suis du dérèglement structurel rendu transmissible. Je n'écris pas pour ouvrir la perception, elle est déjà ouverte, parfois jusqu'à la plaie. J'écris pour que cette ouverture ne reste pas seulement blessure, bruit, crise, limon. J'écris pour qu'elle devienne, ne serait-ce qu'un instant, une forme. Et là, on peut se demander, et si cette forme était la danse? Justement, alors... maintenant, Anne-Sophie, Christine, Jean-Christophe, comment est-ce que vous envisagez cette histoire entre le texte, le verbe, la poésie et la danse? Est-ce que vous avez déjà rencontré ces messieurs que nous venons d'entendre? Est-ce que vous avez déjà des expériences avec du texte en dansant?
On va répondre.
Qui a envie de dire quelque chose? Jean-Christophe?
Sur ce qui vient de se passer là, non, moi j'ai pas rencontré, à part Braski, j'ai pas rencontré les autres personnes. Voilà, donc la situation est intéressante parce qu'on la découvre par le biais de la radio, de l'enregistrement et du discours. Ce qui est quand même très différent du vivant.
Je vous remercie de toute façon pour votre patience à les écouter. Mais c'était un peu long, on n'est même pas allé jusqu'à la fin. Mais voilà, moi je crois que cette soirée va effectivement dénoter de tout ce qu'on a pu voir. Et comme il nous a dit, tout est encore ouvert. Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que vous êtes déjà rencontrés? Est-ce que vous allez bientôt vous rencontrer? Est-ce que vous y allez juste comme ça et vous dites, hey, on y va, on fait ce qui nous passe par l'esprit?
Non, on s'est déjà rencontrés, on a déjà vu les poèmes, on les a déjà lus. On n'a pas rencontré les auteurs ni les poètes. On a déjà... la grande question, c'est... c'est de laisser l'espace au texte et trouver, nous, en tant que chorégraphes et danseurs, une position ou une façon que la parole du texte, que le sens du texte ne soit pas effacé. Mais en même temps, il faut que la danse crée aussi un espace personnel, donc peut-être un espace différent. Donc c'est la cohabitation de deux langages, de deux matières.
Oui, Jean-Christophe, qu'est-ce qu'on pense?
je continue un petit peu sur la lancée aussi par rapport à la situation, parce que c'est ça aussi qui me donne des points de repère, et en même temps, on est toujours en situation de création quelque part. Donc là, tout ce qu'on a entendu me donne des points de référence pour voir où on va aller après. Déjà d'avoir entendu les voix, d'avoir entendu les discours, de connaître aussi ce que c'est que le texte. Enfin, en tant que chorégraphe, moi j'ai travaillé sur plusieurs types de textes. Donc là, ce sera une autre expérience, ça c'est sûr. Mais je pense qu'il y a quand même une attente un peu fantasmée par rapport à la danse qui me questionne.
Le texte est peut-être aussi une forme de musique
dans tout ça. Oui, en fait, on déchire, on est en train de déchiffrer quelque chose là. Parce que Philippe Braski nous a fait une proposition à tous les quatre, il a sans doute fait aussi une proposition à tous ses auteurs et ses lecteurs. Et en fait, on a comme une espèce de plan de vol un peu qu'on peut modifier à notre guise, mais qu'on modifie très peu en réalité. Et on essaie de comprendre, de déchiffrer d'abord ce que ça veut dire, parce qu'on nous propose parfois de faire un duo, un trio sur tel ou tel texte. On essaie d'abord d'interpréter ces différentes règles du jeu, quoi. Et puis de voir si ça effectivement nous convient. Et puis, en fait, pour l'instant, on a très peu dansé. On a beaucoup parlé. On se connaît quand même bien tous les quatre. Moi, Jean-Christophe et moi, on ne se connaît pas vraiment. On a partagé récemment une soirée ensemble, mais on n'a pas de danse pendant Fait Divers, mais on n'a pas vraiment encore dansé, on ne connaît pas nos danses. Par contre, avec Christine, oui, Andrea, je l'ai déjà vu danser. Voilà. Donc, il y a quelque chose comme ça très intuitif entre nous, mais voilà, on découvre au fur et à mesure. Et on continue de découvrir avec ce qu'on vient d'entendre.
Oui. Et on va tous découvrir ça le 26 juin à la Guillotine. Et puis, c'est une proposition très ouverte, hein, où tout peut arriver. où on peut sans doute avoir des moments de grâce absolue et puis des moments de flottement et tout est permis et on va tout accepter. C'est parce que on est face à quelque chose qui est en train de se construire dans l'instant même. Si j'imagine que vous allez un peu vous plonger dans la chose, mais après, c'est aussi le sens de cette rencontre. Hein. Je pense de rester ouvert à l'instant de ce qui va se produire.
À partir du moment où il y a de la lecture, d'abord, il faut être attentif aussi à ça, à cette écoute-là. Quoi.
Ouais.
La lecture en direct.
Oui. Et ouais, Christine, je voulais dire quelque chose. Non. Alors,
oui, mais nous, on a besoin quand même de structurer quelque chose à nous quatre.
Oui.
Parce qu'en fait, on est quand même, malgré tout, pas que des danseurs. On est des chorégraphes.
Ouais.
Et moi, c'est vrai que j'ai besoin de, comment dire, chorégraphier, c'est peut-être un grand mot, mais de me situer quelque part par rapport à a du sens. Et moi, je peux danser comme ça, mais ce que j'aime aussi, c'est de savoir où je danse, pourquoi je danse et quelle est, là, va être ma relation avec, évidemment, mes trois autres partenaires. Donc, en fait, on est quand même en train, je crois, de structurer notre intervention. Après, je pense qu'on va essayer d'être très à l'écoute des auteurs et des poètes, mais c'est vrai qu'on n'arrive pas uniquement, enfin en tout cas moi, je parle pour moi, en tant que danseuse.
Mais
voilà, c'est très important, voilà. Parce qu'en fait, excusez-moi, après je lâche la parole, mais ces textes sont hyper écrits, hyper structurés.
Oui.
Donc je ne vois pas pourquoi nous, on viendrait olé olé.
Voilà. Non, mais je viens comme chorégraphe, hein. pas voilà. comme interprète aussi, mais surtout comme chorégraphe.
Voilà.
Donc, et chorégraphie, écriture.
Voilà.
Voilà, faut le dire quand même.
Voilà, c'est ça. C'est ce que je voulais aussi dire. Pardon.
Oui, ben, la musique peut rentrer dans le corps, peut le faire bouger, peut l'animer. Est-ce que ça peut être vrai aussi pour la parole?
Ah oui, moi je pense que oui.
Oui. Bah c'est les, enfin, me concernant en tout cas, c'est beaucoup les espaces. Les espaces qui sont laissés entre le texte et la danse, ou comment ça s'interagit.
Mmh.
Autrement, on peut structurer aussi avec deux plans différents. Enfin, il y a plein de façons de faire.
Et est-ce que vous avez déjà de l'expérience? Alors, avec un travail sur des textes ou à partir de textes.
Bah moi, j'avais travaillé il y a quelques années avec un poète, avec Marc Blanchet, autour de ses poèmes, d'un recueil de poèmes qui s'appelait Tristes encore. Et on avait fait un petit duo d'une demi-heure qu'on a présenté la dernière fois à la Maison de la Poésie en 2022. Et c'était passionnant parce que, en fait, déjà, le fait de choisir des textes, de découper, d'organiser comme ça une dramaturgie, si on peut dire, entre de la musique et du texte, c'est passionnant. C'est un cadre qui est à la fois porteur de sens, à la fois porteur d'images et d'impressions. Et donc, à l'intérieur de ça, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est de voir comment trouver des matières qui pourraient rentrer en résonance avec les textes, sans redoubler le sens, mais au contraire, en ouvrant le sens, en lui donnant presque des contrepoints parfois. Enfin, en tout cas, ce qui me plaît, c'est de choisir à chaque fois vraiment un positionnement par rapport à ces textes. Et en fait, c'est ce que dit Christine là par rapport à ce projet. Je pense qu'effectivement, dès lors qu'il y a du texte, il faut quand même pouvoir préciser le sens que ça a, à la fois dans le texte, mais dans nos corps, quoi.
Mmh. Oui, on rêve de quelque chose. C'est une vision, comme ça, de parole qui puisse faire un avec le corps, comme avec un geste, au moins, comme peut-être on peut l'imaginer. C'est l'image un peu d'un artaud. Où la bouche crache des choses, mais le corps, il crache.
Ah oui, il y a aussi le corps temps. Des lecteurs.
Oui. Oui, mais est-ce que ça va être pour vous, je ne sais pas, maintenant, une chose radicalement différente de ce que vous avez l'habitude de créer par le corps, en dansant? Est-ce que vous allez inventer une nouvelle danse?
Moi, c'est mental, hein. C'est plus mental que... Enfin, le corps répond, mais mentalement, il y a tout un contexte qui se met en place du fait qu'on ait déjà lu les textes. Parce qu'on aurait pu arriver sans rien savoir, puis faire travailler en improvisation là-dessus, médiaque, mais vraiment rien. Débarquer, quoi. Mais les textes, là, ils sont quand même écrits depuis un certain temps. Ils sont imprimés. Et ils sont gravés. Et donc, on se retrouve avec la problématique de l'illustration, quand même, qui peut être très vite un piège sur quelque chose de déjà existant.
C'est pour ça qu'on a
donc,
besoin
de ça. Ouais. Donc, le rapport, il est, pour nous, il est pas si évident que ça. Parce qu'après, on peut jouer sur les matières, la manière de lire, l'échange avec le lecteur, des choses comme ça. On se connaît pas, donc on sait pas si ça va être fluide, conflictuel, amical. Il y a plein de façons de faire, ou à l'écoute, ou dans une autre écoute. Mais voilà, il y a plein de...
Après, vous venez toutes les trois, et même Andrea Sitter aussi, d'écoles, de techniques, d'univers de la danse qui sont assez différents, je crois. Oui. Est-ce que vous pouvez un peu parler de d'où vous venez ? Quand Andrea, qui n'est pas ici, elle vient de la danse classique, par exemple.
J'aime parler, mais bon, avant, quand même, pour répondre à la question, je réponds pas à celle d'avant, travailler sur le texte, j'ai quand même fait au moins 3 pièces sur des textes. Donc ça, c'est important de le dire. Dont un texte sur une violence conjugale en 2005, qui à ce moment-là n'avait eu aucun répondant. Et c'était les seules personnes qui étaient concernées par ces histoires-là qui m'avaient dit que c'était vraiment assez fort. Et autrement, le regard était passé dessus. Et ça, c'est un grand regret. Mais autrement, oui, travailler aussi sur les textes mythologiques, enfin, des choses comme ça, ouais, mm-hmm. C'est beaucoup. Formation, sport d'abord, conservatoire, classique, notation labane, contemporain, CNDC, technique Cunningham et autres, et puis danse du 17e, donc le renouveau de la danse baroque dans les années 80-90, avec Francine Lancelot, et ensuite contemporain.
Ouais,
quand même. Hein. Ouais.
Non, mais c'est une histoire.
Une écriture, une longue histoire.
Ouais. Ouais. Oui.
Avec du silence, des mots, ouais, la musique aussi un peu. Voilà.
Moi aussi, je viens de la danse contemporaine pure.
Oui.
Voilà. Madame Robinson, Suzanne Burge, etc. J'ai fait ma compagnie et j'enseigne. Mais c'est vrai que pour répondre par rapport au texte, je sens un peu dans notre groupe, c'est qu'on essaie quand même de trouver une forme d'abstraction par rapport à ça. Je pense qu'on essaie d'éviter le piège de la redondance et ne pas tomber dans l'expression du texte qui, à mon avis, est beaucoup plus large que juste un mot. C'est-à-dire, si on prononce navire, c'est pas pour ça qu'on voit un bateau. Enfin, pour moi, je vois autre chose. Donc, c'est là où on essaye, nous, pour l'instant, de trouver une situation, en fait, par rapport à ce texte. Pour, en fait, laisser quand même le texte... Enfin, pour moi, c'est le texte qui est sujet. Pour moi, c'est la poésie qui va être le sujet, c'est pas moi le sujet. Voilà. Donc, voilà, je rebondis par rapport au texte. J'ai l'impression que c'est eux qui doivent être mis en valeur et que nous, on doit trouver des ouvertures visuelles et sensorielles et de matière. Mais moi, j'ai pas envie de ramener un autre texte.
Bah peut-être c'est à eux de vous mettre en valeur. Moi j'ai envie de vous voir.
Ah mais vous nous verrez.
Oui, oui.
On sera tout à fait là. Mais il y a une forme. Enfin, je sais pas. Bon, voilà.
Anne-Sophie, tu es passée par où dans le parcours,
Moi, je fais aussi beaucoup de danse contemporaine, bien sûr, des formations, voilà, comme ça, au CNSM de Paris. Et puis, ensuite, j'ai travaillé avec des gens qui étaient aussi des gens qui étaient à la lisière entre plusieurs choses. il y avait vraiment des chorégraphes purs et durs, et il y avait aussi des gens, comme je pense à Joseph Nadj, qui était aussi entre les arts plastiques, le théâtre, je pense à l'association Méharé avec laquelle je travaille encore la semaine prochaine, Emmanuel Anali et Alain Maé, sont des personnes qui font des choses entre plusieurs arts. Ils ont beaucoup travaillé avec Carlota Ikeda, Komi Robushi, donc c'est aussi un autre versant. Alors moi, bien sûr, je ne fais pas de buteau, mais je sens que quelque chose m'a traversé un peu de cette... de cet esprit. Il y a une formation, mais il y a aussi ces rencontres-là, et chaque personne avec qui j'ai travaillé souvent une dizaine d'années, 15 ans, donc c'était à chaque fois des choses longues qui ont eu le temps de s'imprégner en moi, quoi. En plus de la danse, bon, j'ai fait beaucoup d'alto. J'écris moi-même des poèmes, comme tu l'as dit tout à l'heure. Il y a aussi des poèmes qui vont être lus. Pas par moi, je crois, je ne sais plus. Enfin, bon. En tout cas, pas pendant la danse, pour répondre à la question. Parce que je distingue quand même, quand je danse, je danse, quand j'écris, je distingue un peu les deux choses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de corps, mais je distingue ces deux... C'est deux manières d'être à ces matières, quoi.
Alors là, comme tu n'es pas en train de danser ici, est-ce que tu peux nous dire quelque chose que tu as écrit ?
Lire un truc que j'ai écrit ?
Oui.
Est-ce que tu as quelque chose ?
Non, j'ai pas tout, je sais pas.
Je peux lire
un petit... Je suis pas sûr, je l'ai en fait.
Ça, c'est bien.
On ne transmet rien visuellement, il n'y a pas de caméra dans le studio, et il n'y a pas de danse.
Ok, alors ça c'est assez ancien en fait, hein, ce qu'il a choisi Philippe. En fait, c'est un recueil qui s'appelle Ouvrage du... Oh, c'est celui-là, non, Où la tête s'est perdue. Donc c'est assez ancien. Alors, pas articulé par des pièges, paupières qui ne pulsent plus l'image. Chaque piste devient le masque d'un autre. Une corne unique pousse en son centre. Corne sans œil, canne dans le vide. À chaque poids, dans l'Écosse, une prière. Bras usés d'étouffer la mort. Bouquet de bras empoignés par quoi rien ne peut survivre à ce siège. L'indice de peur s'élève. S'élève un chant du creux qu'alimente l'élan des pioches à s'extraire des régions du sol. À chaque pas, dans les fosses, une prière. Langue, muscle vengeur dans sa maison close. Langue, tu pointes ton doigt, tu soulignes, glaciaire tu accules, tu t'éprends de ta fonte et dans le recul du front, tu ne penses plus rien. Dans la cosse, un poids seul, un mot séparé des autres, léger.
Alors, qui va danser ? Qui va venir ? On va le découvrir le 26 juin à la guillotine.
Oui.
Jean-Christophe et Christine, est-ce qu'il y a des textes des fois ? Est-ce que vous écoutez, vous entendez le texte et ça vous donne envie un peu de bouger ? Est-ce que ça vous inspire chorégraphiquement ?
Oui, il y a toujours un peu le domaine de l'inconscient. Alors, on part de l'inconscient pour arriver au conscient, peut-être. Et il faut qu'on travaille avec Jean-Christophe sur comment on parlait de ce texte, en fait. Et là, j'étais en train, justement, de rêver, pendant qu'Anne-Sophie le disait.
Ah bah moi aussi, c'est pareil.
C'est-à-dire que j'étais déjà partie en train de me dire, voilà, j'aimerais bien faire ça. Mm-hmm. Bon, je ne sais pas si vous serez d'accord, mais on pourra en parler. Mais en fait, quelque part, ça n'a rien de... Comment expliquer ? C'est vraiment... Le texte rentre et du coup, il y a quelque chose qui s'ouvre. Alors, moi, je pourrais faire ça, on pourrait faire autre chose. Et à un moment donné, il faut accepter cette espèce de sonnette dans la tête. Et je ne sais absolument pas si c'est bien, pas bien, vrai ou faux. Mais j'écoute la sonnette. Voilà. Et c'est indescriptible, inexplicable. Mais c'est ça la danse, en fait. C'est compliqué de dire quelque chose de la danse.
Oui, c'est drôle parce que j'imaginais vraiment qu'on ne pourrait pas se
faire après. Retourne à Uzès, qu'on écoute la fin de la conversation enregistrée là-bas avec les écrivains, poètes, acteurs, etc. Et avec Philippe Ahmed Braski pour retourner le côté texte.
C'est pas, tu vois, c'est pas une décoration d'assiette.
Ah oui, il faut passer du mot obscène spectateur au mot spectateur.
Spectateur, exactement, spectateur, ça me va très bien. Voilà, et puis mon langage se trouve très, très, pas coupé, mais enrichi par celui de mon fils. Je suis plus qu'heureux d'avoir mon Pierre.
Mais autant qu'on aime Grotowski, mais il y a Amangati. Tu fais partie des rares personnes qui ont un peu travaillé avec Amangati et ça nous touche. Est-ce que tu peux juste nous dire un petit mot?
Voilà, c'est Paul Alio.
Ben, je peux dire un petit mot sur Amangati. Oui, c'est que ça a été un tout petit mot, je peux dire. Je peux à peine dire ce que ça m'a apporté de travailler avec lui. Ça m'a confirmé dans une démarche qui est d'exploser les murs du théâtre. C'est la démarche d'Izou, en gros, d'Isidore Izou. Je suis du côté des dadaïstes, du côté des gens qui explosent les murs, qui explosent les conventions, qui explosent les situations posées, les paradigmes, qui explosent le paradigmatique, qui s'attaque. Hein, tu vois, comme le free jazz, c'est quelque chose qui explose le paradigmatique de qu'est-ce que c'est que la théorie de la musique, par exemple. Qu'est-ce que c'est une grille de jazz? Ben, non, justement, il n'y a pas de grille. On ne sait plus ce que c'est que la musique. C'est John Cage, le bruit des oiseaux, c'est de la musique. Le bruit des bagnoles, c'est de la musique. Tout dépend comment on l'écoute. Tout dépend du hasard des choses. Et je dis, c'est pas moi qui joue. Je suis joué par des choses qui me traversent. En tout cas, c'est ce que je cherche. Si je ne suis pas traversé par une chose qui me met en jeu, qui m'émeut au sens de ça me fait bouger, pas au sens de ça me rend gaga pour pleurer de bonheur devant ma minette. Ça m'emmerde. La poésie décorative, quoi, me fait chier. Bon, carrément.
La récitation, oui.
Oui, ben voilà, j'ai fait un bon mot, voilà. Je pique ça à Julien Blaine un petit peu aussi.
C'est-à-dire, il y a un texte, mais le texte va vivre dans cette liberté-là de la rencontre avec d'autres énergies.
Mais je pense que dire un texte, c'est la racine même de dire un texte. Dire un texte, c'est pas comme un non, vous voyez. Bon, c'est l'investir. C'est que se produise quelque chose vraiment de ce qui met en mouvement hors de soi, y compris le public qui l'entend. La première fois qu'on a fait une lecture l'année dernière à la Guillotine avec Félix, où on lisait ses textes l'un et l'autre, il me passait des textes à lire, et puis on disait aussi quelques poèmes d'autres poètes qu'on aime bien, lui et moi, qu'on aime bien, qui nous ont changé. Voilà, quelque chose qui ne nous transforme pas ne vaut pas la peine d'être vécu. Un spectacle, c'est vécu. Un spectacle qui ne me transforme pas m'intéresse moyennement, en gros. Bon, Gatti, précisément, on ne peut pas rentrer travailler avec Gatti, on ne travaille pas avec Gatti. Le travail, qu'est-ce que c'est le travail? Je ne sais pas, ça se mesure comment le travail? Ça se mesure en joule. On mesure le travail en salaire. Non, ça se mesure en joule, le travail. C'est qu'est-ce que c'est la quantité d'énergie investie dans un mouvement, dans une action. Et Gatti, c'est de l'action. Gatti, attends, il a fait en Avignon, à la chapelle des pénitents blancs, on avait joué la tribu des Carcana en guerre contre Troie, qui était l'histoire de la colonne de Ruti, mais complètement poétisé, transposé, avec une grande marionnette. Alors le public était posé, mais la scène était complètement éclatée, explosée, et ça m'intéresse, et c'est ce qui va se produire. Par exemple, quand je fais une mise en scène, enfin une mise en espace, je prends systématiquement la diagonale. Ça, c'est un principe, je mets en diagonale. Pourquoi? Je ne sais pas, si, parce que j'ai vu des spectacles de Philippe Adrien aussi, que j'estime beaucoup. Voilà, mais on est en train de parler de moi, c'est pas très intéressant.
Alors écoutez, mais je vous remercie beaucoup d'être venu. on va se retrouver le 26 juin à la guillotine. Et Philippe Ahmed Braski, oui.
Si, une chose que je veux dire, qu'il a annoncé, c'est Harold. Ce que je veux dire et qui me traverse, c'est le long poème de Allen Ginsberg qui s'appelle Howl, c'est-à-dire hurlement. Et c'est un hurlement. I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving, hysterical, naked, dragging themselves through Negro streets at dawn, looking for an angry fix. Angel-headed hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo in the machinery of night, who poverty and taters and hollow-eyed and high salad smoky, etc. Il y en a une demi-heure. Et on va faire ça avec Claude Berlin en traduction simultanée en bilingue. En bilingue simultané.
Stop. Extraordinaire.
Donc ça a commencé il y a un an par deux lectures qu'on avait organisées avec ces deux messieurs et on continue le 19, le 21 et le 26 juin à la guillotine, 24 rue Robespierre, Montreuil, au fond de la parcelle magique.
Oui, explique-nous les chemins qui mènent à la guillotine.
Alors c'est très très simple, comme on le sait, Montreuil c'est le 21e arrondissement de Paname, donc c'est métro Robespierre, très facile, sur la 9, qui est une bonne ligne, enfin qui est une ligne qui traverse Paris, et c'est pas loin, c'est tout près rue Robespierre, à 1,7 minute de marche du métro, au 24 rue Robespierre, faut pas avoir peur, faut aller au fond de la parcelle, ou sinon vous passez par les pianos, ce restaurant agréable, où il y a du temps et de l'espace.
C'est chez les Gueux, c'est au bar de Rimbaud, la guillotine de Rimbaud, chez les Gueux.
Mais merci à vous tous, merci Félix, merci, merci.
Merci Thomas.
Wanda da soa, ishishi Wanda.
Écoutez Lee Scratch Perry et demandez-vous si Paul Alliot est une réincarnation française.
You got to let the music flow. Get off this girl. Let the music flow like a river from ground to bank. You got to run and go. You got to run.
Donc, c'était notre tempête sur les planches d'aujourd'hui, le 14 juin 2026. Et je remercie du fond du cœur nos invités Christine Gérard, Anne-Sophie Lancelin et Jean-Christophe Bouclet en l'absence d'Andrea Sitter. Et voilà, le 26 juin, donc, il y aura la lecture de textes par Claude Merlin, Philippe Urin-Desrosiers, Christophe Lagneau-Enos, Félix Alliot-Chauménienne, Paul Alliot, Philippe Ahmed Braski, Anne-Sophie Lancelin et Mathilde Nègre. Mais vous pouvez aussi y aller le vendredi 19, comme il vient de dire, pour la lecture de texte de Félix Alliot-Chaumienne que vous venez d'entendre et le 21 juin la lecture bilingue de Howl de Allen Ginsberg dont Paul Alliot a lu un extrait et ce sera avec Paul Alliot et Claude Merlin à 17h dimanche prochain à 17h à la guillotine 24 rue Robespierre à Montreuil.
Indigo. Can talk his game. Do it hard, do it fun, and it on. Do it fun, and it on. Do it hard, and it on.
Alors c'était le Kentucky Skunk de Lee Scratch Perry et on pourra enchaîner encore avec lui. Et alors, n'oubliez pas, n'oubliez surtout pas de passer par la librairie du Monde Libertaire au 145 de la rue Amalo, dans le 11e arrondissement de Paris, pour avoir, pour lire, pour acheter le Monde Libertaire, et tous les livres sur l'anarchisme, et autre chose aussi, la littérature, dans toute sa variété, sa splendeur, à la librairie du Monde Libertaire, la librairie Publico, et beaucoup d'autres choses. Donc c'était Tempête sur les planches avec Thomas de Hambourg, et on continue en direct sur Radio Libertaire.
C'est complet, c'est plein, on ne sait déjà pas que faire. Des sans-papiers, des clandestins, des réfugiés de toutes les guerres. C'est facile de tendre la main, où s'arrêtera la surenchère. Mais où vont les êtres humains que l'on reconduit aux frontières? Pas de quoi, dit-on, en faire un foin, d'hurler à la chasse aux sorcières. Qui n'a pas son lot de pépins, de tracas et de vents contraires. Chacun chez soi, c'est plus serein, faut se méfier des chiens qui errent. Mais où vont les êtres humains que l'on reconduit aux frontières? D'ailleurs les bohémiens, c'est dans leur gêne le goût de l'air. Que leur liberté, ça ne vaut rien que le prix d'un vol en charter. Il y a des lois, c'est bien le moins, même sur une terre hospitalière. Mais où vont les êtres humains que l'on reconduit aux frontières? Bien sûr, tout le monde convient qu'il y a de pires gangsters que ces ramassis, ces vauriens, voleurs de poules, de pommes de terre. Pour les plumés, eux, pas moyen, ils n'ont pas de compte bancaire. Est-ce pour ça que c'est plus humain de les reconduire aux frontières ? C'est une ritournelle, un refrain qu'on nous sert comme une prière. Sincère et presque bon chrétien, en tirant vers soi la soupière. On ne peut pas, comprenez bien, accueillir toute la misère. Mais où vont les êtres humains que l'on reconduit aux frontières? Mais où vont les êtres humains que l'on reconduit aux frontières?
Là, la pluie. Ah, quel sale temps. Où est-il l'été? L'été, où est-il?
Oh là, mais que vois-je apparaître en regardant à ma fenêtre? Là, cette dame qui vole en voile de nylon et qui tient un bâton tout plein rempli d'étoiles. Si cette dame est flic, l'est au moins générale. Ah, bonjour, madame la fée.
Mon Dieu, qu'il ait bien élevé cet enfant. Je veux le récompenser. Que voudrais-tu? Formule un souhait, j'ai le pouvoir de l'exaucer.
Vrai?
Vrai?
Ben, je voudrais qu'on se paie du bon temps.
Du bon temps?
Du bon temps.
Qu'entends-tu par là, mon enfant?
Ben, je voudrais avancer l'été. Qu'il fasse avant la Saint-Jambon. Qu'il fasse beau dès le 10 juin.
10 juin.
Ça serait bien s'il faisait beau d'aimer.
C'est beau d'aimer.
Et que cesse enfin cette pluie. Où est-il était, l'été wetti? Où est-il était, l'été wetti? Qu'il fasse chaud des méchouis.
Méchoui.
Puis qu'il fasse beau des
pas que beau.
Que le soleil tape en marteau.
Marteau.
Ça serait bien qu'il fasse des l'hiver beau. Et que cesse enfin cette pluie. Où est-il été, l'été wetti? Où est-il été, l'été wetti? Si de plus un climat chaussette.
Ma chaussette.
Cet en été l'automnelier.
Tonnelier.
Tous les étés les uns aux autres. Ça serait le genre de temps qu'on bénit. Surtout qu'il n'y aurait plus cette pluie. Où est-il été, l'été wetti? Où est-il été, l'été wetti?
Mon enfant, ne sois pas saltant.
Sale temps.
Ton joli souhait m'a beaucoup plu.
Beaucoup plus.
Et je vais pouvoir l'exaucer.
Saucer.
Oui, je peux, oui, ce pouvoir,
je l'ai.
Abracadabra, c'est ce puits. Soleil d'été resplendit.
Oh, miracle, un astre éclatant irradie rose au firmament. Ah, dis donc, elle affirme, papa. C'est madame la fée qui a fait ça.
Alors, heureux?
Oh oui, madame la fée. Merci, madame la fée.
Et c'est poli, adieu, mon enfant.
Au revoir, madame la fée.
Charmant.
Et le bonjour à monsieur la fée.
Crétin, tiens.
Tiens, là, la pluie.
From
day. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk.
Je suis